Bonjour à chacun d'entre vous, heureux de vous retrouver après quelques semaines d'absence. Mais je vois que tout le monde n'est pas encore rentré, il y a bien des places vides. Certains sont sans doute sur le chemin du retour, ou presque. C'est les vacances qui veulent cela. Et j'aimerais vous amener ce matin dans une région du monde bien secouée en ce moment, comme d'ailleurs elle l'a toujours, ou en tout cas souvent, été. Par la pensée, on ne va pas faire le déplacement réel, nous allons nous transporter dans le Moyen-Orient. Alors c'est une région du monde bien connue des lecteurs de la Bible, puisque pratiquement toute la Bible se situe dans cet endroit du monde qu'est le Moyen-Orient. Alors, il y a quelques pays qui subsistent encore aujourd'hui et qu'on trouve à travers les siècles dans la Bible. Israël, bien sûr, qui est toujours là, ou qui est de nouveau là, depuis une date assez récente, au vu de l'histoire de ces régions de notre monde. Il y a la Syrie, elle a plus loin Syrie. Et puis, il y a l'Égypte, dont on parle encore aujourd'hui très fort, et 8 siècles avant Jésus-Christ, puisque nous allons lire un texte, un chapitre du prophète Ésaïe, qui se situe à cette époque-là, 8 siècles avant Jésus-Christ, il y avait une grande puissance politique qui s'appelait la Syrie, en un mot, la Syrie, L'A, 2 S, Y, R, I, E, à ne pas confondre avec la Syrie, en deux mots. La Syrie, c'était la puissance militaire de cette époque qui en imposait, un peu comme les États-Unis aujourd'hui en imposent par leurs porte-avions, etc. Et cette Assyrie se trouve, ou se trouvait, entre les deux fleuves, les deux grands fleuves du Moyen-Orient, qui sont le Tigre et l'Euphrate, en Mésopotamie. D'ailleurs, le mot Mésopotamie veut dire littéralement, en grec, « entre les deux fleuves ». Alors, la puissance de la Syrie avait comme capitale Ninive. Ninive, dont on parle aussi, notamment, avec le petit livre de Jonas. Alors, cette grande puissance militaire et politique qu'était la Syrie voulait, bien sûr, assujettir les petits pays alentour, notamment le petit pays d'Israël. Les dignitaires d'Israël prennent peur, les ministres et les ambassadeurs font des voyages en Égypte pour réclamer ou pour se mettre sous la protection de l'Égypte, qui était une puissance un peu plus forte, militairement parlant, que le petit pays d'Israël à cette époque. Nous sommes donc au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier, c'est un petit peu plus loin. Mais le prophète Ésaïe, qui était vraiment un homme de Dieu, inspiré par Dieu, parle de la part du Seigneur, et à travers ce qu'il dit à son peuple d'Israël à cette époque-là, est aussi une parole pour nous aujourd'hui. Je vous invite donc à lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 30. Nous ne lirons pas tout le chapitre, il est un petit peu long, mais vous pouvez le relire, et puis j'espère que ça vous donnera envie de relire tout le livre d'Ésaïe, qui est un livre remarquable. Alors, ce chapitre 30 fait partie d'un petit ensemble, chapitre 28 à 33, qui peut être regroupé sous le titre « Le livre des malheurs ». Parce que, à plusieurs reprises, ces chapitres commencent par ces paroles « malheur ». « Malheur à ». Et nous lisons au chapitre 30 du livre d'Ésaïe, d'abord les 5 premiers versets. « Quel malheur pour les fils rebelles ! Déclaration du Seigneur. Il s'engage dans des projets qui ne viennent pas de moi. Il conclut des traités que je n'ai pas inspirés pour accumuler péché sur péché. Il descend en Égypte sans m'interroger pour se réfugier dans la forteresse du Pharaon et chercher un abri à l'ombre de l'Égypte. La forteresse du Pharaon tournera à votre honte, l'abri à l'ombre de l'Égypte à votre confusion. Déjà ses princes sont à Tsoan, c'est une ville de l'Égypte, hein, et ses messagers ont atteint Annès, une autre ville. Tous seront honteux au sujet d'un peuple qui ne leur sera pas une aide, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Puis un petit peu plus loin, au verset 8, « Viens maintenant, dit Dieu à Ésaïe, écris cela devant eux sur une tablette, grave-le dans un livre, ce sera pour l'avenir. » Je ne sais pas si Ésaïe pensait à nous ce matin, je ne crois pas. Un témoin perpétuel. En tout cas, Dieu a le souci d'adresser sa parole non seulement à son peuple à cette époque-là, mais à ceux qui viendront bien plus tard, jusqu'aujourd'hui et même au-delà. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des fils renégats, des fils qui ne veulent pas écouter la loi du Seigneur, qui disent aux voyants « ne voyez pas » et aux visionnaires « n'ayez pas pour nous de vision exacte, parlez-nous avec complaisance, ayez des visions chimériques, détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, ôtez de notre présence le Saint d'Israël ». À cause de cela, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, que vous mettez votre confiance dans la violence et dans les détours, et que vous les prenez pour appui, cette faute sera pour vous comme une brèche menaçante qui fait un renflement dans une muraille élevée. En un instant, tout à coup, elle s'écroule. On la brise comme on brise la jarre des potiers. On la met en pièces, on ne l'épargne pas, et ses débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël, c'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Verset 18, c'est pourquoi le Seigneur attend pour vous faire grâce. C'est pourquoi il s'élèvera pour avoir compassion de vous, car le Seigneur est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui l'entendent, car un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'oppression. Ton maître ne se tiendra plus à l'écart. Tu verras ton maître de tes propres yeux. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, suivez-le. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vous tiendrez pour impur l'argent qui recouvre vos statues et l'or dont sont plaquées vos idoles de métal fondu. Tu en dissémineras les débris comme une souillure. Hors d'ici, leur diras-tu. Nous arrêterons là notre lecture. C'est donc une période de malheur que traverse le peuple d'Israël, parce que les armées syriennes sont à la porte. Et le prophète Ésaïe s'adresse au peuple d'Israël qui cherche refuge auprès du pharaon d'Égypte et qui pense ainsi être mis en sécurité. Mais il n'en est rien, dit le Seigneur, qui dit que les Égyptiens leur seront d'aucun secours. C'est alors que le Seigneur a à leur égard une parole de jugement, mais aussi une parole de grâce. Et il leur dit au verset 15, c'est dans le retour à Dieu, dans la conversion à Dieu, et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et il ajoute, mais vous ne l'avez pas voulu. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans notre pays, mais certains le sont à travers le monde, dans une situation semblable. Et nous pouvons en être reconnaissants à Dieu. Même si l'Europe, après s'être déchirée pendant des siècles, connaît aujourd'hui la paix des armes, dans d'autres pays, les armes grondent. Mais cela ne nous donne pas pour autant une vie calme et confiante. Nous sommes des agités en permanence, tout le temps en train de courir, stressés, énervés, fatigués, en souci pour ce qui pourrait nous arriver. Notre vie moderne, qui n'a jamais autant facilité l'existence des hommes, se plaît à nous rendre la vie insupportable. Nous vivons dans le stress et dans la peur. Peur de ne pas réaliser nos projets. Peur de ne pas avoir ce que nous attendons tout de suite. Peur pour nos enfants, pour leur avenir, pour leur réussite. On a peur de la vie et on a peur de la mort. Alors c'est vrai, quand on regarde le journal télévisé, on se demande dans quel monde on vit, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis l'origine de l'humanité. C'est souvent le monde de l'horreur, avec ses images insupportables. Mais il ne faut pas généraliser. Les horreurs existent, mais, je le répète, ça n'existe pas partout. Il y a aussi beaucoup de belles choses autour de nous. Beaucoup de réussites sociales dont nous profitons, comme la sécurité sociale, la retraite, quoi qu'on en dise. Et jusqu'à nouvel ordre, nos salaires et nos retraites sont versés. Les allocations chômage aussi, ce qui n'est pas le cas dans bien des pays du monde. Nous faisons quand même, il faut le dire, partie des privilégiés de notre monde et bien des millions de personnes nous envient. Mais le monde où nous vivons est un monde de péché, de l'absence de la crainte de Dieu, de l'indifférence à son égard, comme au temps d'Ésaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est ce que nous rappelle ce texte est ce que reproche Dieu à son peuple. À l'époque d'Ésaïe, le peuple d'Israël, qui a toujours été le miroir de notre monde, en lisant la Bible, à travers le peuple d'Israël, nous nous reconnaissons en tant que pays, en tant que personne. On ne se tourne pas vers Dieu quand on a des problèmes, on essaie de les résoudre soi-même. Et les pays les plus modernes et les plus riches de notre planète ne sont pas à l'abri d'un ouragan dévastateur, d'un feu de forêt qui oblige des populations entières à évacuer les zones dangereuses, d'un attentat ou de toute autre chose, d'une épidémie. Mais on se débrouille tout seul, on est grand, on n'a pas besoin des autres et surtout pas besoin de Dieu. Certains diront que c'est une preuve de maturité. Quand les enfants grandissent, ils quittent le cocon familial, ils deviennent indépendants. Mais je dirais que c'est plutôt un rejet de Dieu, alors que nous sommes plus que dépendants de lui. sans même nous en rendre compte. Qui a fait qu'il existe dans nos jardins ces magnifiques roses qui ne durent qu'un temps, mais qui sont là quand même, témoignage de la beauté de l'œuvre de la création. Oui, Dieu est bien présent, ne serait-ce que dans les lois de la nature qui sont directement issues de sa création, et surtout de la vie que Dieu nous accorde, qu'il nous maintient ou qu'il nous enlève. Est-il étonnant alors que Dieu reproche à son peuple, lui qui l'a sauvé de l'Égypte, de l'esclavage égyptien, de ne pas se préoccuper de lui, et que ces chapitres commencent par ce mot « malheur ». Comme à l'époque d'Ésaïe, la parole de Dieu s'adresse à nous, elle nous dit « c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut ». Retourner à Dieu, faire demi-tour, ce qui se traduit aussi par se convertir ou se repentir, c'est admettre que nous sommes pécheurs et que nous n'avons pas ou que nous ne tenons pas toujours compte de lui, de Dieu. C'est lui remettre notre vie, lui dire que nous voulons marcher avec lui dans une relation retrouvée, comme avec un ami, un maître qui nous dirige, parce que lui sait ce qui est bien pour nous. C'est retrouver une intimité avec Dieu, c'est l'aimer, et cela se cultive par la lecture de la Bible, par la prière, par la communion avec Dieu. Le Monde dit une publicité tirée d'un film célèbre est divisée en deux catégories. Tout à l'heure, Pierre-Yves citait deux catégories d'hommes. La publicité en cite aussi deux. Ceux qui tiennent un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses, dit la publicité. Pour copier cette image, cet aphorisme trompeur, je dirais que le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui mettent leur confiance dans la parole de Dieu, qui se nourrissent de la Bible, et ceux qui ont une religiosité sans consistance, vague, qui repose sur rien de solide. Ceux-là creusent leur tombe. Retourner à Dieu, c'est mettre notre foi en Dieu, marcher avec lui, comme Abraham qui s'est laissé conduire par lui et qui n'avait pas mis son espérance dans les choses terrestres. L'Épître aux Hébreux nous dit, il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Tout ce que Abraham a possédé dans sa vie, quelque chose qui a perduré, alors qu'il était quand même aisé, riche. Mais le seul achat qu'il a accompli en matière immobilière, c'est une tombe, un terrain pour y construire une tombe. Le repos dont Dieu parle consiste à se décharger sur lui de nos problèmes et le laisser prendre en charge notre vie. Et Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » C'est ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui. Dans notre monde tourmenté ou dans notre vie inquiète, Dieu veut nous donner sa paix, la paix de savoir que nous sommes entre ses mains, tout puissants, quoi qu'il arrive, et que Dieu reste en contrôle de notre situation. Connaissez-vous cette paix au fond de votre cœur? L'apôtre Paul écrira que par la foi nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette paix de savoir que nous pouvons nous réfugier dans les bras de notre Dieu. J'ai déjà raconté le témoignage de cet ami que j'avais autrefois, qui, à l'âge de 40 ans et des poussières, a eu un accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique. Il est décédé maintenant, une trentaine d'années après, à l'âge de 70 ans. Cet ami ne conduisait pas. Pendant une grande partie du voyage, il était couché sur la banquette arrière. Et puis, il s'est relevé. Et c'est à ce moment-là que son chauffeur, un ami aussi, s'était endormi. Et la voiture a dévié de sa route et elle est rentrée dans un camion qui venait en face. Il a eu ce qu'on appelle le coup du lapin et il est resté tétraplégique. Et tout de suite après cet accident, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse trois choses dont il ne devait pas dévier. Tout d'abord, premièrement, pardonner au chauffeur de la voiture qui s'était endormi au volant. Deuxièmement, ne pas dire à Dieu « Pourquoi as-tu permis cela ? Pourquoi moi ?» C'est vrai que s'il était resté encore allongé pendant quelques minutes de plus, il n'aurait pas eu cet accident, enfin l'accident aurait eu lieu, mais il n'aurait sans doute pas été tétraplégique. Et puis la troisième chose, lui faire confiance pour chaque jour qu'il me donne de vivre. Et jusqu'à la fin de sa vie, il ne s'est pas départi de ces trois promesses. Pardonner, ne pas demander à Dieu pourquoi, et lui faire confiance. Un peuple qui ne s'est pas soucié de lui et qui l'a évincé de ses réponses face aux problèmes pourtant énormes, Dieu annonce que c'est dans le calme et la confiance que sera sa force. Nous avons tous besoin de force et de courage. Il nous arrive d'en manquer. Courage de dire la vérité. Courage d'affronter les épreuves que la vie se charge de placer sur notre route. Courage de faire confiance au Seigneur. C'est pour cela que nous avons besoin de Dieu dans notre vie. Lui qui a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne te laisserai pas tomber, je suis tous les jours avec vous ». C'est son amour qui nous soutient, ce sont ses promesses qui nous soutiennent. C'est cette relation-là que Dieu veut retrouver avec nous. C'est en lui qu'il nous faut puiser nos forces et notre courage. Dans l'Ancien Testament, il y a essentiellement deux grands rois. Le roi Saül, pourrait dire le premier roi d'Israël, et son successeur, le roi David. Il y en a peut-être un troisième avec le roi Salomon. Mais savez-vous pourquoi Saül a été évincé du pouvoir par Dieu et qu'il a terminé sa vie si lamentablement? Pour deux raisons. Pour avoir manqué de patience et pour s'être obstiné à refuser la parole de Dieu. Telle n'a pas été l'attitude du roi David, qui au plus fort de l'orage s'en remet à Dieu, lui fait confiance et ne veut qu'une chose, faire la volonté de Dieu. David a connu au plus fort de l'orage le calme et la confiance. Dieu nous attend, ses bras nous sont ouverts. Le verset 18 de ce chapitre 30 nous dit « Heureux tous ceux qui espèrent en Dieu. Avec Dieu, les malheurs se transforment en heureux. » Il y a là aussi, malgré les malheurs, une parole de grâce. Oui, heureux ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Heureux ceux qui s'attendent à lui, car Dieu est un Dieu de grâce. C'est en lui qu'il nous faut attendre, patienter, chercher la réponse à nos problèmes dans le calme et la tranquillité. Remettons-lui nos craintes, nos angoisses. Apprenons à vivre dans son intimité. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile. Comme a dit Isabelle toujours, tout à l'heure, parfois Dieu semble être absent, mais Dieu n'est pas absent. L'agitation, la crainte, l'angoisse ne sont jamais bonnes conseillères. Passer du temps avec Dieu nous donne ce calme et cette confiance en lui. C'est là, sans doute, le secret que Dieu veut que nous mettions en pratique dans notre vie. Je conclurai par le témoignage d'un homme de Dieu remarquable mais peu connu, un pasteur qui a vécu dans la première moitié essentiellement du siècle dernier, dans les années 1900-1950, il est mort en 1954. Il venait d'une famille parisienne aisée. Il a fait des études de théologie pour être pasteur. Il a d'abord été nommé en Ardèche, au Mialet, là où il y a le musée du protestantisme avec l'ancienne maison de Pierre et Marie Durand. Et puis ensuite, il est allé dans le nord de la France, à Lille, dans un faubourg, Fives-Lille, de gens assez pauvres, faubourg ouvrier de Lille, où il est resté 57 ans. Il y a accompli une œuvre remarquable. Il s'est intéressé aux enfants qui ne partaient jamais en vacances. Il a créé des colonies de vacances. Il a créé un genre de banque alimentaire pour nourrir ces populations qui étaient souvent affamées. Il lui arrivait de faire ses visites parfois à 6 heures du matin, avant que les ouvriers aillent au travail. Et puisque il était debout à 6 heures du matin et qu'il avait demandé à un ouvrier de venir réparer le toit d'une de ses maisons d'enfants, cet ouvrier s'est dit, eh bien, je vais aller chez lui à 6 heures du matin avant le travail, je vais le rencontrer. Effectivement, ça a été le cas. Il a frappé à sa porte et s'appelait Henri Nick, lui a dit d'entrer et lui a dit cette parole que je trouve remarquable. Il y a plus d'une heure que je cherchais à rencontrer Dieu. Je me demande comment font pour le trouver ceux qui ne le cherchent pas. Oui, ce n'est pas toujours facile de rencontrer Dieu. Il faut du temps pour cela. Alors oui, c'est dans la tranquillité, dans la confiance que sera votre force. Sous-entendu, bien sûr, confiance en Dieu, tranquillité en Dieu, cela vaut la peine de chercher Dieu et de mettre notre confiance en lui. Amen.